Bon, on va commencer avec une prière,
Oui,
si vous
allez-y.
voulez bien. Seigneur, nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes encore une fois de nous réunir, d'être à tes pieds, comme Marie qui a choisi la bonne part. Et nous savons que c'est une bonne part parce que c'est une parole de toi que nous méditons, que nous étudions. Et je prie que tu puisses nous aider pendant cette méditation de cette lettre aux Hébreux. Au nom de Jésus, nous prions que tu nous donnes aussi la concentration. Amen.
Amen.
OK.
Marie-Madeleine, la grande pécheresse.
Alors nous allons nous intéresser pour ces semaines, du moins 4 semaines, au mois de septembre où je serai là, à la lettre des Hébreux. C'est une étude que j'ai entreprise un peu pour ma propre instruction dans un premier temps, suite à des questions et qui est surgie un peu comme vous avez posé la
Oui.
question tout à l'heure sur cette lettre. Enfin, bien sûr que je lis depuis plusieurs années. Et puis, en ayant accepté ce stage, j'ai proposé que cette lettre soit étudiée si possible. Et puis voilà, les autres groupes aussi du jeudi étaient tout à fait d'accord pour qu'on puisse lire ensemble. Donc ça sera un survol, hein, bien sûr. Un survol. Et puis après, bien sûr, on peut lire dans la maison, dans le foyer, chacun de nos, dans nos, dans nos lieux respectifs, pour y revenir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à
D'accord.
m'interrompre. Donc j'ai cru comprendre que c'est des études publiques assez interactifs. Voilà. Donc je intitule cette série un peu de la lettre aux Hébreux, garant du salut éternel. Ça c'est les titres en haut que je donne. J'espère que vous arrivez à lire au moins l'ouvrage
Oui,
tout en
ça
haut.
va, on arrive à lire quand même.
Donc, dans la première étude,
Voilà.
j'intitule l'achèvement du plan de salut de l'ancienne à la nouvelle alliance. Donc, ça sera un survol, hein.
Voilà.
Alors, dès le début, enfin, dans l'introduction, on demande toujours une lettre. C'est qui l'auteur? Ça, c'est une lettre. Forcément, il y a quelqu'un qui l'a écrit. Or, la lettre des Hébreux est anonyme. Donc, il y a plusieurs discussions parmi les professeurs. Certains envisagent Paul, d'autres Apollos, comme auteur fort possible de ce livre. Mais nous savons qu'il s'agit certainement d'un contemporain du jeune pasteur Timothée. Pourquoi ça serait un contemporain de ce jeune pasteur Timothée? Parce que l'auteur ainsi que les destinataires de cette lettre connaissent bien ce dernier. D'ailleurs, ce dimanche, ou même les dimanches souvent, on va étudier la lettre au Timothée, la deuxième lettre au Timothée que Paul écrit. Mais en tout cas, celui qui écrit Hébreux, que ce soit Paul ou Apollos ou peut-être quelqu'un d'autre, il connaissait bien Timothée. La preuve, c'est, on le lit dans 13:23, dans Hébreux 13:23. On va essayer de lire à tour de rôle, hein, chacun si
Oui.
possible, enfin, si c'est pas trop long. Dans 13:23, moi je commence. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Donc vraisemblablement, l'auteur connaissait Timothée et les destinataires aussi connaissaient Timothée, puisque quand j'écris une lettre à l'église de Lille, par exemple, et que j'ai dit Marie-Madeleine va passer chez vous, elle est en région parisienne, enfin quelque chose comme ça. Hein. Donc ça veut dire que les gens à l'église connaissent Marie-Madeleine et que moi aussi je connais Marie-Madeleine, donc c'est un peu dans la même optique. Quoi qu'il en soit, en tout cas, qui que ce soit, ce document, il est un peu reconnu comme une lettre atypique, parce que dans l'époque des Grecs et des Romains, il y a toujours un auteur quand on écrit une lettre. Même aujourd'hui, hein, quand on écrit une lettre, il y a toujours un destinataire qui caractérise tout ça. Mais outre la lettre des Hébreux, en étudiant cette lettre, j'ai découvert qu'il y avait aussi la lettre de Jean, une des lettres de Jean, parce qu'il y a un Jean, deux Jean, trois Jean.
Oui.
Un Jean ne commence pas non plus avec son nom. C'est quelque chose que j'ai découvert aussi en étudiant cette lettre. Si vous voulez bien, on peut lire Hébreux 1:1, comment cela commence, et on va remarquer un peu la manière frappante comment ces deux lettre commence. Hein. Alors, Hébreux 1:1, Marie-Madeleine, vous pouvez lire.
Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes.
Voilà, 1:1, il dit, il commence d'emblée, après avoir autrefois, plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Alors, on va voir comment 1 Jean commence. Certes, on l'appelle la lettre de Jean parce que vu la similitude dans la deuxième lettre et troisième lettre, on a conclu que ce serait éventuellement le serviteur de Jésus-Christ, l'apôtre Jean, qui a écrit, parce qu'il parle de l'ancien dans les deux autres lettres. Et dans la première lettre, Madeleine voulait bien lire 1 Jean 1:1.
Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie.
Donc si on lit ces deux versets de Hébreux 1:1 et 1 Jean 1:1, ce qui est frappant et en même temps ça c'est réjouissant, que malgré l'omission de l'expéditeur ou même du destinataire, on s'aperçoit que Dieu parle dans ses lettres. Parce que dans Hébreux 1:1, on a lu après avoir parlé autrefois. Mm-hmm. Donc il y a une communication qui s'établit d'emblée dès les premiers versets. Et puis ici dans 1 Jean 1:1, on voit une proximité, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, quelqu'un était proche, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Encore une fois, une question de quelqu'un qui parle. C'est la parole de vie et Jésus-Christ est caractérisé comme la parole de vie. Et c'est ça qui nous réjouit en lisant ces deux lettres, que Dieu parle à travers ces lettres. Les pères de l'Église en incluent donc, pour moi, à juste titre, comme la parole de Dieu. Ils l'ont inclus comme le canon des Écritures inspirées de la part de Dieu. Donc nous sommes reconnaissants pour ces deux lettres et parce que les chrétiens reconnaissent clairement qu'il y a l'Esprit de Dieu. On peut reconnaître aussi dans les pensées que nous allons lire bien tout de suite que l'Esprit de Dieu a verbalement inspiré, parce qu'il est question de l'Esprit Saint aussi dont l'auteur ne manque pas de mentionner dans la lettre aux Hébreux. Alors je vais lire dans Hébreux 9:8. Arrêtez-moi si vous avez des questions, hein, si
oui.
Peut s'attarder. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc, il fait mention de l'Esprit de Dieu dans ces versets 8, tout comme dans d'autres versets. Par exemple, dans Hébreux 9:14 aussi. Quelqu'un peut lire, Marie-Madeleine ? 14.
Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ?
Très bien. Moi, je vais lire aussi Hébreux 3, 7 et 8. Hébreux 3, 7 et 8. On va lire beaucoup d'Hébreux hein, pendant l'heure. 7 et 8. Alors, vous voulez lire éventuellement ?
C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert.
C'est bon, ça ira. Donc, il est bien encore une fois mention du Saint-Esprit. Et souvent, on utilise ce verset lorsqu'on apporte l'Évangile et qu'on demande à ceux qui écoutent, les croyants comme les non-croyants, à ne pas endurcir quand l'Esprit de Dieu parle aujourd'hui. Donc, convaincu que Dieu parle donc verbalement dans cette lettre, on peut s'arrêter sur ces mots de la lettre aux Hébreux, et notamment, comme on a lu tout à l'heure, Hébreux 1:1, il dit « Après avoir autrefois, à plusieurs manières et de plusieurs reprises, parlé à nos pères par les prophètes. » Donc, il y a une absence explicite du nom de l'auteur ou des destinataires, même si explicitement il n'y a pas les destinataires. Qu'est-ce qu'on comprend à travers ces mots après avoir parlé à nos pères par les prophètes, à votre avis ? Après avoir parlé.
Parlé à nos pères. Par la des croyants, des apôtres déjà.
Déjà, il parle certainement à des croyants.
Il ne parle pas aux Israélites.
Voilà, c'est ça. Et quand il dit, après avoir parlé à nos pères par les prophètes, donc l'auteur s'identifie lui-même à un Israélite. Et puisqu'il est question des prophètes, donc de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, il s'adresse à des croyants, probablement, qui sont aussi des Hébreux. Sachant que dans certains passages, les versets dont il est question, ça évoque plutôt des personnes qui ne sont pas croyantes. Donc parmi les Juifs, parmi les Hébreux, il y avait des non-croyants aussi. Donc, mais en général, il s'adresse à ceux qui ont déjà confessé Jésus comme le Messie, que le peuple d'Israël avait reconnu. Donc la lettre s'adresse bien aux Hébreux, d'où le nom qu'on a donné derrière la lettre aux Hébreux. On aurait pu peut-être appeler aussi la lettre aux Juifs ou la lettre aux Israélites. Mais voilà, c'est des mots similaires. Hein.
Oui.
C'est comme on dit les Gaulois ou les Français, on reconnaît bien, c'est nous. Du moins, vous, moi, d'origine indienne, mais voilà, c'est ça, enfin, l'idée, en fait, hébreu. Oui. Donc, l'Église est constituée donc, de Juifs et aussi des nations.
Des non-Juifs.
Et des non-Juifs aussi. Mais en voyant que cette lettre commence par ces mots après les avoir parlé à nos prophètes, on sait qu'ils ciblent directement, dans un premier temps, les Hébreux. Mais bien sûr, nous, qui ne sont pas forcément juifs ou hébreux, on peut aussi tirer beaucoup d'instructions parce qu'il y aura une bonne mesure de comparaison entre l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance au travers de cette lettre. Donc ça sera utile pour nous. Paul dira dans des termes similaires des Israélites à qui appartiennent aussi l'adoption. Vous vous rappelez dans Romains 9, aux Israélites appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, les sacrifices. L'auteur ici va beaucoup parler des sacrifices aussi, dans la lettre aux Hébreux. Ce sont des choses qui sont très liées aux Lévites. Donc il va parler du culte des Lévites dans la lettre aux Hébreux, des promesses qu'ont reçues les patriarches israélites. Donc toutes ces choses appartiennent donc au Père israélite, et de qui est issu selon la chair Christ aussi. C'est ce qu'il va dire dans Romains 9. Et Christ qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement, Amen. Donc ça c'est un peu les versets du Romains 9 aussi. On voit des similitudes avec du moins ce chapitre de Romains 9 où il est question vraiment d'Israélites, et la lettre des Hébreux où il est question des Hébreux ou Israélites. Alors j'ai fait un petit plan sur deux axes. Alors j'ai pour cette étude, après cette introduction, l'achèvement du plan de salut de Dieu par Jésus Christ, le souverain sacrificateur. Donc ça c'est un thème majeur, et puis après on verra avec le temps aussi qui nous reste les différentes alliances et quelques différences avec les alliances énoncées dans cette lettre. Alors la perfection dans cette épître, là je suis dans la page 2. Cette épître évoque une certaine perfection fondamentalement parce qu'il parle du sujet ou de la question d'accomplissement parfait du plan de salut de Dieu par Jésus-Christ qui est le souverain prêtre, un salut parfaitement accompli. C'est la notion qui va venir souvent, et Dieu qui est souverain, dans son plan, dans son décret, a choisi d'accomplir pour la gloire de son seul nom, donc du Père, du Fils et de l'Esprit, à accomplir le plan de salut par le Messie. Par le Messie qui est le souverain prêtre, le souverain sacrificateur par excellence, si on peut dire comme ça. Sachant que tout ce qui est notion de souverain sacrificateur, c'était pas du tout étrange pour les Juifs. Et puis nous aussi, puisque nous lisons l'Ancien Testament. Alors, il y a quelques confusions qu'on peut éviter en lisant aussi en hébreu, et beaucoup de vigilance aussi dans la compréhension par rapport à la question même du salut. J'ai écrit cette parenthèse par rapport à la question de salut, qui, comment... quel est le plan de Dieu sur... Donc rapidement, on va voir un peu cette parenthèse par rapport à la question fondamentale du salut. Et puisque cette lettre aussi évoque cet accomplissement de salut, donc j'ai écrit dans... Quand l'écrivain s'adresse aux Israélites, écrit aux Israélites, aux Hébreux dans cette lettre, ou bien Paul dans Romains 9, comme nous avons lu tout à l'heure, il est dit dans Romains 9, Dieu choisit Jacob, ou même dans la lettre aux Hébreux, Dieu a désigné Aaron, tout comme Jésus, le Messie, le Fils, ne s'est pas désigné tout seul de son propre chef non plus. Dieu a choisi. aussi le Messie, son fils, comme souverain prêtre. Donc il y a une élection de Jacob. Dieu choisit Aaron, ici dans cette lettre. Dieu a le droit donc d'exercer sa miséricorde envers qui il veut. En l'occurrence, envers Jacob. Dans Romains 9, on lit. Et cela pour exécuter le plan de salut et en l'étendant même, ce plan de salut, envers nous, les païens. Donc Dieu, il a le droit de choisir. Oubliez ce contexte donc particulier de la lettre aux Hébreux ou Romains 9, où il est question du plan de salut que Dieu commence à travers le choix d'Israël, le choix de Jacob, et plutôt même le choix d'Abraham, et qu'en s'adressant avec les Israélites à l'Esprit dans sa pensée, aussi bien de Romains 9 que dans la lettre aux Hébreux, Paul, dans Romains 9, qui se dit même hébreu, hein, né des Hébreux, hein, comme il dit dans Philippiens, il faut toujours avoir à l'esprit que le plan de salut de Dieu est un plan qui vient de la personne de Dieu, à l'initiative de Dieu, et Dieu choisit de sauver selon son plan. Et c'est ça qu'il faut, il faut avoir une juste compréhension et pas la mauvaise compréhension. Et là, pas la mauvaise communication de Romains chapitre 9 par rapport au plan de salut de Dieu.
Donc c'est Dieu qui choisit celui qui va être sauvé alors.
Alors justement, on va pas justement confondre la souveraineté de Dieu, parce que votre question est très très pertinente. Voilà, on va justement, pour ne pas confondre la compréhension de la souveraineté de Dieu, on va voir la volonté de Dieu concernant le salut individuel. Alors pour cela, je vous encourage à prendre 1 Timothée, qui est dans notre note, puisque la question arrive tout de suite dans l'esprit de Madeleine, et ça tombe bien parce que c'était aussi arrivé dans mon esprit. Et donc, par rapport à la volonté de Dieu pour le salut individuel, pour que chaque homme soit sauvé, qu'est-ce que c'est, quelle est la volonté de Dieu, si on pose la question?
C'est que tout le monde doit être sauvé.
Alors, dans 1 Timothée 2, on va lire ça ensemble, justement. Dans 1 Timothée chapitre 2, je lis à partir du verset 3, par exemple. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bon et agréable? C'est ce qui vient d'être dit plus tôt, c'est-à-dire prier, faites des requêtes, des supplications à ceux qui sont élevés en autorité. Donc, en l'occurrence, aussi bien à César, aussi bien à Néron, enfin, aussi bien à Agrippa, Félix, tous ces rois, y compris parce qu'il parle bien des rois hein, dans ce passage plus tôt. Pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, et même ce matin, enfin, ou même cet après-midi plutôt, avec Nils, on était en train de discuter des universitaires dans cette région. Donc on peut prier, et tout à l'heure, avant votre passage, je priais pour les universitaires qui étaient autour de l'île, dans l'île 1, l'île 2, l'île 3, les personnes âgées qui sont dans cette ville, les personnes adultes. C'est-à-dire, Dieu nous demande de prier pour toutes ces personnes. C'est ça. Et donc, il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, verset 3, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, si il est clairement indiqué que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, et que dans Romains 9, il est question que, il est marqué, Dieu fait miséricorde à qui il veut, et il en dit aussi qu'il veut, il faut comprendre que la souveraineté de Dieu par rapport au plan de salut, c'est par rapport à son choix personnel. Dieu a choisi de sauver et Dieu a choisi d'accomplir son plan. Et pour cela, il a le droit d'exercer un choix de Jacob. Il a le droit d'exercer un choix d'Abraham, de la tribu de Juda, de qui sera issu le Messie. Et Dieu choisit son fils pour être le souverain sacrificateur, pour intercéder en notre faveur. Donc vous comprenez bien que le plan de salut est dans l'esprit de Dieu et il choisit à qui il va faire la miséricorde. Il n'a pas choisi Ésaü, mais il a plutôt choisi Jacob pour exécuter ce plan. Voilà. Dieu, il a le droit d'exercer. Mais en ce qui concerne le salut individuel des personnes, Dieu a toujours le désir que tous soient sauvés. Maintenant, si tous ne sont pas sauvés, parce que l'homme reste incrédule. Voilà. Tous ne croient pas en Jésus-Christ. Tous n'ont pas cette foi sincère. Donc, si on part du principe dans ce contexte que les rois qui sont élevés en autorité considéraient les chrétiens comme ennemis de l'État, d'ailleurs ils les ont même tués hein, à cette époque, mais que l'apôtre Paul dit clairement que même pour eux, il faut prier, parce que Dieu veut qu'ils soient sauvés. Donc si un pire homme comme César ou comme un roi de cette époque, ou même des dictateurs contre les chrétiens même aujourd'hui, pour qui nous devons prier, et derrière il dit que Dieu veut qu'ils soient sauvés, c'est que la volonté de Dieu est claire. Maintenant, il ne faut pas le confondre avec une fausse compréhension de la souveraineté de Dieu par rapport au plan d'accomplissement du salut. Je ne sais pas si vous saisissez un peu l'idée que... Donc, en écrivant « Il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde » dans Romains 9, l'auteur pense que Dieu a le droit de choisir Jacob, il a le droit de choisir Israël, je suis dans le troisième paragraphe, puis les nations pour exécuter promptement son plan de salut. C'est ça que je comprends. Donc, appliquer ce verset de la souveraineté de Dieu dans la confusion avec le salut individuel des croyants dont Dieu veut qu'ils soient sauvés, peut mener à terme à toutes sortes d'hérésies parfois. C'est pour ça que certains disent que Dieu ne veut pas peut-être sauver certains. Donc, il ne faut pas tomber dans cette hérésie. Donc, je ne vais pas mentionner les noms des théologiens ici. Et Dieu veut-il que les hommes périssent sous le jugement de sa colère en excluant volontairement certains individus de son plan de salut ? Loin de là. C'est ça que nous devons dire. Dieu ne veut pas exclure qui que ce soit. La réponse de Paul de Tarse, qui s'adresse à Timothée comme on vient de lire ici, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc la réponse de Paul à Tarse, de Tarse à Tite aussi, ça va se confirmer un peu. Marie-Madeleine, vous pouvez lire Tite 2:11, s'il vous plaît. Non, c'est pas grave, vous prenez votre temps. Après Timothée,
après Timothée, oui.
Non, mais je ne trouve pas. Hébreu.
Je l'ai si vous voulez. Tite 2:11.
Tite
2:11.
On voit mieux là. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
Car la grâce de Dieu, source de salut à tous les hommes, a été manifestée. Et si on prend la traduction mot par mot, depuis le texte original de grec que Paul a écrit, c'est marqué « a été manifestée, en effet, la grâce du Dieu sauveur pour tous les humains ». En hébreu, enfin, je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est « epéphané, gar, ekaristoteo, et soterios, passin, anthropois ». C'est du charabia. C'est du grec en tout cas. Si on traduit littéralement en français, ça fait « a été manifesté, en effet, la grâce du Dieu sauveur pour tous les humains ». Donc encore une fois, ici dans ce passage, on voit que la grâce de Dieu est manifestée pour tous les humains. Avec Jésus-Christ qui a été manifesté par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, comme on a lu dimanche, la grâce de Dieu a été donnée, a été manifestée. Maintenant, ceux qui reçoivent par la foi, ils ont accès à cette grâce de Dieu. De même, lire la lettre aux Hébreux en omettant de notre esprit les Israélites, les Hébreux ou les Juifs, mène à toutes sortes de hérésies, notamment encore une fois sur la question du salut, vers la fausse doctrine de la perte du salut. Ça, c'est une autre hérésie aussi. Bon, je ne vais pas citer non plus encore une fois les théologiens, ce n'est pas notre point ici. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut se servir de la parole de Dieu pour donner toutes sortes de conceptions, et certains se sont servis de la lettre aux Hébreux même pour dire qu'on peut perdre le salut. Donc ça, c'est des idées reçues, du moins. Donc contrairement à toutes ces idées reçues, c'est dans la lettre des Hébreux qu'on peut lire les notions uniques telles que le salut éternel. D'ailleurs, l'adjectif éternel, associé avec le mot salut, le salut éternel, ça se trouve particulièrement dans la lettre des Hébreux. C'est l'auteur des Hébreux qui dit ça, un si grand salut. Et tout cela atteste l'œuvre parfaitement achevée par Dieu à travers son Fils qui est le prêtre souverain en vue du plan de salut qu'il exécute pour l'éternité future des hommes pécheurs. Donc pour commencer cette étude de la lettre des Hébreux, je vous encourage donc à parcourir tous les versets que je vous donnerai plus tard, probablement dans les semaines à venir, ou n'hésitez pas à me demander, j'ai un fichier que je peux vous imprimer, où j'ai pris tous les versets dans lesquels il est question du salut, dans la lettre des Hébreux, et rien que lire ces versets et méditer, ça, c'est enrichissant. Et là, on n'aura pas le temps de faire ça. Donc, tous ces versets qu'on peut mettre en lien avec le salut qui est accompli par Jésus-Christ comme l'auteur le présente. Alors, je vous lis dans 2, 9 et 10. Hébreux 2, 9, 10. Maintenant, on va se concentrer de plus en plus sur Hébreux dans notre lettre maintenant. Après avoir vu un peu le salut de Dieu, le plan de salut, les Israélites et cette lettre aux Hébreux. Dans 2, 9, 10, il est question de Jésus-Christ. Donc, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. Encore une fois, c'est une mort, une expiation, une souffrance que nous commémorons d'ailleurs à la table du Seigneur, même ce dimanche, on l'a fait. Il a souffert la mort pour tous. Il convient en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils élève à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Encore une fois, cet achèvement du plan parfait de Dieu, du plan de salut à travers son fils qui est le prince de notre salut. C'est à cause de la mort qu'il a souffert pour tous et c'est par cette souffrance qu'il devient l'auteur et le prince d'un si grand salut éternel. D'un si grand salut parfait. Alors j'ai mis cette petite anecdote à titre d'application hein, par rapport à cette souffrance de Jésus-Christ. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'attrayant dans le monde, de suivre un maître qui est souffrant? Donc souvent dans le monde aujourd'hui suit des gens comme, j'ai pris l'exemple comme ça, hein, de Steve Jobs par exemple, qui d'ailleurs a souffert aussi vers la fin de sa vie. Steve Jobs, c'est celui qui a été fondateur de Apple, de ses grandes compagnies, ou Mark Zuckerberg. C'est celui qui est fondateur des grandes entreprises comme Facebook, des réseaux sociaux, tout ça. Donc souvent, on pense aux réussites, on a tendance à associer la réussite avec ces grandes personnalités. Mais quand Jésus nous appelle à le suivre, quand Jésus a appelé les gens à le suivre, il était une figure controversée parce qu'il parlait souvent de sa propre souffrance et de sa mort à Jérusalem. Donc c'est peut-être pas forcément attrayant, mais c'est comme ça que Jésus a été dépeint dès le début. Il parlait de sa mort et de ses souffrances. Et dans Matthieu 17, 22, 23, vous pouvez lire dans les notes qui est écrit dans le premier paragraphe, Madeleine ou...
Où ça ?
Là.
Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit... Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et le troisième jour il ressuscitera. Ils furent profondément attristés.
Voilà. Il était profondément attristé à cause de cette souffrance qu'il va subir. Et c'est ce que la lettre aux Hébreux nous a dit tout à l'heure, qu'il souffre pour tous. Mais n'oublions pas que nous suivons et que nous adorons celui qui est détesté par le monde peut-être, dont la vie a conduit à la croix, mais la donne qui a changé tout et qui change tout, c'est qu'il a été ressuscité des morts. Il est vivant et il intercède en notre faveur, dira l'auteur des Hébreux tout à l'heure, on lira. Donc notre culte et notre vie de disciple paraissent parfois fous aux yeux du monde, mais c'est là que réside toute notre force et puissance lorsque nos esprits s'élèvent pour considérer le prince et l'auteur d'un si grand salut qui l'a accompli sur la croix. Même nos souffrances aujourd'hui, des maladies, de toutes sortes, des épreuves de toutes sortes, nous fait considérer que Jésus-Christ est aussi celui qui a souffert pour nous. Celui qui a souffert la mort. Celui qui a eu des moments de veille difficiles, des moments où il souffrait tellement que par des larmes, comme il dit, la lettre aux Hébreux, des larmes de sang. Et il a obéi en tant qu'homme un fils à toutes ces souffrances comme nous, pour que nous puissions avoir un souverain sacrificateur qui intercède et qui compatit à notre faiblesse parce qu'il a vécu comme nous, il a été souffrant comme nous. Donc ça c'est un encouragement finalement pour toute personne, tout homme, toute femme, qu'il soit un homme du point de vue du monde bien réussi, il va passer par une souffrance aussi. J'étais en train de suivre, c'est le même lot. J'étais en train de suivre justement récemment, enfin il y a une semaine ici sur France 24, les dernières phases de la vie de Steve Jobs, dont on a parlé tout à l'heure. Mais c'est une souffrance terrible qu'il a vécue, parce qu'avec ce cancer de pancréas que cet homme a subi, malheureusement, Il y a une souffrance qu'il a accumulée, et puis il voulait faire toutes sortes de thérapies possibles. Mais la mort donne souvent raison à l'homme. Et c'est ça que Jésus a vaincu.
Qu'on soit riche ou pauvre, on y va tous. Hein.
Que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, que l'on ait un statut dans la société, que l'on ait un prestige dans la société, ou que l'on soit plutôt modeste, que l'on soit noir, que l'on soit blanc, que l'on soit jaune,
on y va tous.
On y va tous. Et Jésus-Christ, il a souffert la mort pour tous, justement. C'est ça le message qui est très réconfortant dans Hébreux. Donc, dans Hébreux 2,10, il dit bien, il convient en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc, les souffrances du Christ étant lui-même une étude dont l'auteur des Hébreux va aborder. Donc, nous n'allons pas tout voir, bien sûr, hein, c'est des survols qu'on est en train de faire. Christ doit souffrir et ceux qui le suivent doivent aussi souffrir dans la communion avec le prince de notre salut. C'est aussi dans ce contexte de persécution politique contre ces chrétiens qui sont amenés à lire aussi cette lettre. Ça, on doit aussi garder à l'esprit. Pourquoi il parle d'autant de souffrances, etc. Parce que c'est des chrétiens qui traversaient des souffrances de la part des juifs, de la part de leurs propres compatriotes. Donc, pour ne pas qu'ils lâchent la course, pour ne pas qu'ils baissent les bras, l'auteur est en train d'encourager en disant que le prince de leur salut, le prince de notre salut, le Messie a souffert pour obtenir un si grand salut éternel. Donc, dans Hébreux 12,2, il va dire justement, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Après avoir élevé à la perfection, Hébreux 5,9, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Vous voyez, c'est un salut éternel. C'est ça qu'on est en train de voir, l'accomplissement. Pourquoi c'est parfait? Parce que ça ne s'arrête pas. C'est un salut qui est donné une fois par Dieu. Une fois que Dieu nous a sauvés, il nous a adressé cette sainte vocation par la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Une fois que ce salut nous est accordé, il est éternel. C'est ça que le plan de l'achèvement, l'accomplissement parfait du plan de salut de Dieu par Christ, le souverain prêtre. Alors, il nous reste encore quelques temps. On peut entamer aussi cette deuxième axe des différentes alliances, les deux différentes alliances entre celui de Jésus, le Messie, et celle de Moïse. Est-ce que vous avez des questions à ce stade?
Pour le salut éternel, et si quelqu'un rejette Dieu, ça arrive, je suppose. Quelqu'un baptisé, tout ça, puis il y a quelque chose et il rejette Dieu, il est quand même sauvé éternellement?
Alors ça, c'est une question que l'auteur aux Hébreux va traiter, surtout par rapport au chapitre 6. Et au chapitre 10.
Bien. Sauvé une fois pour toutes, on dit dans.
Alors, dans ces deux chapitres où il y a le plus de controverses par rapport à ceux qui rejettent, qu'advient-il? Donc, c'est un peu ça votre question. Donc, dans Hébreux 6, si on lit rapidement par rapport à votre question, c'est passages qui sont un tout petit peu controverses. Même beaucoup controversé.
Ah oui.
Je vous lis Hébreux 6, 6, 4 à 8,
oui,
par exemple. 4 à 8.
Oui, car il est impossible.
Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. Et l'expose à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu, mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Okay. Ici, l'illustration, elle est bonne. L'illustration, il est en train de dire qu'il y a, la pluie qui tombe sur une terre, et elle est abreuvée, il y a assez d'eau, mais elle produit une herbe soit utile pour ceux qu'ils cultivent, elle participe à la bénédiction de Dieu dans ce cas, sinon elle produit des épines et des chardons. Et là, elle est reprouvée, prête à être maudite, et on finit par y mettre le feu. Donc les gens qui ont ces fameux gens qui ont été éclairés une fois, goûté le don céleste, il est même écrit qu'ils auraient pu eu part au Saint-Esprit.
Ils n'ont peut-être pas été sauvés.
Voilà la
ils
question.
Ils ont accepté le Seigneur à ce moment-là. Ils ont entendu, ils ont vu. Mais ils ne l'ont pas accepté comme leur sauveur, donc ils ne sont pas sauvés, c'est normal. Ils ont goûté, mais ils n'ont pas, ils l'ont pas cru.
Moi, je crois avec ce que vous dites. C'est ma conviction de foi aussi, dans le sens que on peut goûter toutes les bonnes choses, mais même les bénédictions qui sont issues de Dieu, à travers les gens avec qui on est, être sous cette influence, dans la chaleur, dans la chaleur spirituelle, si
même
on peut dire comme ça, être à l'église, être assidu pendant des années. Mais malheureusement, il faut savoir que tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas forcément
sauvés.
Ne produisent pas forcément cette herbe utile, ne participent pas forcément à la bénédiction céleste en Jésus-Christ que Dieu envoie.
Alors, pour la question de Marie-Madeleine, quelqu'un qui a goûté, qui a vu tout ça, qui a accepté Jésus dans son cœur, qui l'a reconnu comme son sauveur, qu'il a accepté, qu'il est sauvé, lui ne peut pas perdre son salut.
Moi, je crois que dans la Bible, il est clair, et notamment dans la lettre aux Hébreux, il est en train de dissocier parmi les Hébreux et Israélites, puisqu'on a vu tout ce temps, qu'il y a une partie des Hébreux qui sont dans l'assemblée chrétienne, donc des judéo-chrétiens, comme on dit, ils sont juifs et chrétiens, et qui voient la persécution, qui voient les souffrances liées. D'un autre côté, ils voient les pères ou les mères ou les amis juifs ou même des rabbis qui se sont convertis, et ils voient aussi les bénédictions, ils goûtent tout ce que l'Esprit Saint donne aux Juifs, parce que l'Esprit de Dieu est descendu parmi les Juifs dans un premier lieu. Donc ils ont goûté, ils ont vu toutes ces choses. Mais après avoir vu toutes ces choses, s'ils ne se décident pas pour Jésus-Christ, malgré les persécutions et les souffrances, c'est qu'ils ne sont pas dans la foi sincère que d'ailleurs Timothée l'avait, que la mère de Timothée l'avait, elle avait, la grand-mère l'avait, Paul l'avait. C'est pour ça qu'il parle de la foi sincère qui était en Timothée et en sa mère qui était juive.
Et sa grand-mère.
Et sa grand-mère aussi, qui était forcément juive aussi. Donc, il y a parmi ces juifs où il y avait cette sainte foi, cette foi sincère par laquelle, par le moyen duquel nous sommes sauvés par grâce. Et puisque nous sommes sauvés par Dieu, comment le don du salut qui est donné par Dieu peut être retiré?
Non.
Dieu, quand il sauve, c'est déjà les humains, enfin, même si on a un cœur très mauvais, comme dit Jésus-Christ, vous le, qui avez un cœur mauvais, vous savez donner des bonnes choses. Déjà, nous, avec notre cœur mauvais, on donne un cadeau, souvent on ne retire pas. Quelle que soit la culture, quel que soit d'où on vient, souvent, même si derrière on déteste la personne, entre guillemets, on parle de quelqu'un qui n'est pas chrétien mais qui donne un cadeau et qui souvent ne le reprend pas parce que par honneur. Combien plus le don qui vient de Dieu, le salut qui vient de Dieu, peut être ôté et retiré? Et qui peut retirer?
Personne.
D'ailleurs, dans la Bible, on ne voit pas un mot comme par exemple typique, atypique. Vous voyez l'antonyme? Il n'y a pas un mot sauvé ou non sauvé.
Non.
Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas ce mot non sauvé. Non. Quelqu'un qui est sauvé, il est sauvé.
Voilà.
Et en anglais, il existe ces termes save, unsave. Donc, dans le vocabulaire, ça existe, mais dans la Bible, ça n'existe pas, même dans la Bible anglaise. Dans la Bible grecque, ça n'existe pas. Donc, nous sommes sauvés par la foi et c'est un don qui vient de Dieu. C'est un don, c'est le salut. Donc, on ne peut pas l'enlever. Donc, c'est la raison pourquoi même le chapitre 10 en viendra dans 2-3 semaines, où aussi il y a un passage controversé par rapport aux questions de salut, où pour moi, ça s'applique plutôt aux Juifs qui sont sanctifiés dans le sens... comme un mari non-croyant ou une femme non-croyante qui est sanctifiée par son conjoint, dans ce sens sanctifiée, et qui sont dans le sang de l'alliance mosaïque, mais qui ne sont pas couverts par le sang de l'alliance éternelle en Jésus-Christ, par cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. Quand nous lisons dans chapitre 10 de Hébreux, je crois plutôt que le 29e verset évoque quelqu'un qui est sous l'influence du sang de l'alliance mosaïque. Donc c'est un peu l'interprétation, l'explication que je vois. On y viendra, dans tous les cas, sur ces questions. Ouais. Donc rapidement, on va faire sur ces deux différentes alliances. Il y aura certains versets qu'on peut lire. Donc Jésus, sous le titre de l'apôtre et de souverain sacrificateur de la foi, comme on lit dans chapitre 3:1, il est supérieur à Aaron, à Moïse et les prophètes. Et c'est lui qui a été établi héritier de toutes choses. Donc l'auteur des Hébreux va démontrer méticuleusement à travers cette lettre, en prenant l'ancienne alliance et en prenant la nouvelle alliance. Il va constamment faire cette comparaison, combien Jésus il est fidèle. L'auteur, il va introduire un nouveau contraste entre celui qui a construit une maison qui est plus honorée que la maison elle-même. Moïse et Jésus furent fidèles tous les deux. L'auteur, il n'est pas en train d'annuler dans le sens qu'il n'est pas en train de discréditer l'ancienne alliance, parce que c'est Dieu qui donnait, comme une préfiguration. C'est un peu comme Élie et Jean-Baptiste, qu'on a discuté tout à l'heure. Mais Moïse était l'ombre, finalement. Et c'est Jésus qui est le fils. Moïse était le serviteur, qui était le bâtisseur de cette maison. Mais celui qui est honoré, c'est celui qui construit la maison même. Et c'est Jésus qui, qui a été établi comme maître de cette, fils de cette maison, héritier de toutes choses. On peut lire chapitre 3, versets 1 à 6.
Dans Hébreu.
Hébreu toujours. Chacun va lire peut-être deux versets. Je commence avec les deux premiers versets si vous voulez. C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur. Là, il est question de Jésus. L'apôtre est le souverain sacrificateur de la foi qui nous a, que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. 3 et 4 pour Marie-Madeleine.
Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu.
5 et 6.
Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions.
Voilà, il encourage que nous retenions fermement la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc, il parle bien ici à ceux qui ont, quelque part, qui peuvent se glorifier de cette confiance, de cette espérance qu'ils ont. Il l'attache comme un écran, comme un ancre plutôt, qui part d'une chaloupe, qui est un bateau qui est ancré en Christ. Il va utiliser cette image plus tard par rapport à cette espérance que nous avons. Et donc, en évoquant très souvent l'alliance mosaïque ou même Moïse, l'un des arguments majeurs de l'auteur aux Hébreux est que le grand prêtre lévitique et le sanctuaire terrestre, que nous pouvons voir dans le chapitre 9, plus tard, la semaine prochaine, ce sont que l'ombre temporelle qui cède à la nouvelle alliance et au nouveau grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, que les prophètes de l'Ancien Testament ont déjà anticipé. Donc, en décrivant dans le chapitre 8, 1 à 6, on ne va pas lire tout de suite, on lira aussi dans la semaine à venir. Il met un contraste avec le chapitre 9, où il est question de l'ancienne alliance et du sanctuaire terrestre. L'auteur va constamment évoquer cette image de l'ombre et de la réalité. Alors, cette ombre et la réalité, peut-être que, je ne sais pas si vous avez déjà pris un avion récemment, je vais vous donner une illustration un peu réductrice.
Moi, je l'ai pris, mais il y a longtemps.
Alors, aujourd'hui, ils utilisent en ce moment des gadgets dans les avions. Alors, j'ai remarqué, peut-être même quand vous avez voyagé à l'époque, ils réduisent le plan de l'avion sur un petit écran. Je ne sais pas si vous avez vu maintenant, mais par contre, le GPS, par contre, vous le savez tous. Ça existe, on le voit déjà. En fait, ce qui est impressionnant dans cette technologie, c'est que le grand plan, par exemple, des États-Unis jusqu'à Paris, il y a une atmosphère qui est traversée, et puis il y a tout un tas de dimensions qui est grandiose que l'appareil traverse. Et on réduit tout ça à un petit écran. Et en temps réel, aujourd'hui dans les avions, quand vous voyagez, vous voyez cet écran qui bouge petit à petit, enfin cet avion qui bouge petit à petit. C'est-à-dire, c'est une image, en fait, finalement. Et donc, enfin, c'est une illustration, Donc, c'est comme si on est en train de voir un plan d'itinéraire dans un petit papier ou dans un petit écran réduit. Mais finalement, ce qui se passe derrière dans la vraie vie, c'est que l'avion est en train de traverser des dimensions de grande échelle, d'une chose merveilleuse, qu'on ne peut que voir si on est un peu en dehors même de la Terre, si on va de plus haut, quoi. C'est à peu près l'image, enfin, moi j'ai eu cette illustration en tête et puis j'écris. Hein, c'est finalement la réalité en Jésus-Christ, c'est aussi grandiose, enfin, voire même infiniment plus grandiose que cette illustration. Hein, et que notre salut ne se repose pas sur le sang de l'Alliance de Moïse, le fameux sang de l'Alliance mosaïque qui va parler dans le chapitre 9 et même 10, le sang de l'Alliance de Moïse, mais c'est une alliance contractée par l'œuvre rédemptrice accompli par Jésus le Christ. Donc il s'agit d'un sacrifice offert une fois pour toutes, un salut complet, parfait et éternel. Alors ce que je peux vous proposer dans les 10 minutes qui nous restent à peu près, je pense, c'est ça, qu'on puisse lire ces passages textes ensemble, à peu près une petite dizaine de versets, et on va mettre la première alliance d'un côté et la seconde alliance d'un autre côté. On va faire un peu la différence, étudier ensemble, ça va être intéressant. Puis après, bien sûr, vous pouvez lire à la maison aussi, à tête reposée. Alors, moi, je vais lire la première partie, Hébreux 5, Marie-Madeleine pour Hébreux 10. Pardon. Tout est dans les notes aussi. Hein.
Ah, c'est
vous l'avez aussi, tout est, j'ai imprimé aussi. Et puis, Hébreux 7 pour Madeleine aussi. On va essayer de lire au fur et à mesure, on va essayer de comparer entre la première et la seconde alliance. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Hébreux 5, verset 2. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Verset 3. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Dieu choisit Abraham, comme le fut Aaron. Dieu a choisi Aaron. Il a été désigné par Dieu. Christ, verset 8, Hébreux 5, 8. Christ a appris, bien qu'il soit fils, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc j'ai mis un peu en gras certaines expressions, on reviendra quand on fera la comparaison. Marie-Madeleine.
En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ce sacrifice. 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés.
On va retenir ça et on va lire maintenant Hébreux 7, 22 à 28.
Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité.
Merci. Donc je vous ai mis en gras hein, pour certains passages qu'on va comparer justement rapidement. Dans ces versets, donc, on peut noter les différences que l'auteur il va noter entre la première alliance
et la deuxième.
Et la seconde alliance. Parfois même paradoxal quelque part. Mais rappelons-nous toujours, c'est la réalité qui arrive dans la deuxième par rapport à l'ombre ou image de la première. Donc la première alliance, on a lu, il n'amène pas les assistants à la perfection. Alors, qui avait lu ça Donc, c'est le verset 5, voilà. C'est dans le Hébreu 5 qu'on est, on a lu. Il n'amène pas les assistants à la perfection. Alors, qu'est-ce que dit maintenant la seconde alliance ?
Il sauve parfaitement ceux qui s'approchent de lui.
Donc c'est ça qu'on va constamment voir. Dans Hébreux 10, verset 1, il dit, il n'amène pas les assistants à la perfection. Il ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, qui est renouvelé chaque année, amener les assistants à la perfection. Hébreux 10, il dit ça. Et versus, de l'autre côté, dans la seconde alliance, il sauve parfaitement ceux qui s'approche de lui. Ça, c'est ça la nouvelle alliance qui donne un salut complet, parfait en Jésus-Christ. Deuxième chose qu'on peut noter, les sacrifices sont renouvelés chaque année.
C'est le Yom Kippour ?
C'est entre autres, en fait, il y a plein de fêtes aujourd'hui que les Juifs font, ouais. Mais la chose, ce que Dieu il a empêché aujourd'hui, c'est que les sacrifices ne sont plus offerts maintenant. Il n'y a plus de temple aujourd'hui. Donc je crois que le Seigneur Dieu d'Israël montre à travers la lettre des Hébreux, montre à travers Ésaïe 53, montre à travers tellement de passages sur le Messie souffrant, Somme 22, que les sacrifices renouvelés chaque année à la période, à l'époque antérieure, dans le culte lévitique, eh bien, ça a été fait une fois pour toutes, justement, par le Messie. C'est encore là un message. Même s'il y a toutes ces fêtes juives qui existent, littéralement, aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice.
Et pour la Sainte Cène, c'est pas la... Je fais parallèle, parce que vous avez dit, par exemple, les catholiques, quand ils font la communion, pour eux, c'est vraiment le sang du Christ, et le corps du Christ, chaque fois qu'ils font la communion, ils crucifient. Donc, elle disait que nous, on... Pour nous, la Sainte Cène, c'est un symbole. On obéit à la commandement de Dieu. Mais on ne crucifie pas Dieu à chaque fois. Est-ce que c'est pas aussi... Voilà.
Exactement, ouais. Je pense que c'est un bon parallèle parce que ce qui se passe dans le système ou la religion, plutôt la religion catholique, c'est qu'on transforme ces éléments, ces substances, enfin, le pain, l'hostie ou le vin, on le transforme quelque part en sacrifice parce que justement on est dans ce concept de l'ancienne alliance lévitique, hébraïque ou juive, ou constamment renouvelée chaque année. Et donc Christ est à nouveau dans leur conception, dans leur Jésus, selon leur Jésus bien sûr, parce qu'il n'est pas question du tout de Jésus-Christ dans la Bible. Ce n'est pas Jésus le Messie qui est décrit dans la parole, parce que dans la conception de leur Jésus, il est sacrifié constamment. Or, dans la Bible et dans la vérité de la parole de Dieu, il l'a fait une fois pour toutes. Une fois pour toutes, ce sacrifice. Et c'est lui-même l'agneau. Or, non seulement il est lui-même le souverain sacrificateur, le grand prêtre que Dieu a établi, le Fils même a été établi par Dieu sur sa maison. Et en plus, c'est lui qui offre dans la maison de Dieu l'agneau immolé. Et c'est lui-même l'agneau immolé, et c'est une fois pour toutes. Mmh. Et c'est ce que nous avons lu dans ces textes, c'est qu'il a accompli en s'offrant lui-même une fois pour toutes. C'est dans Hébreux chapitre 7, verset 27, il me semble, on a lu. Il n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Et il renouvelle ça chaque année. Mais lui, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Et c'est ça la grande hérésie ou erreur de la religion catholique, que nous devons le dire, c'est que le sacrifice de Jésus-Christ, le Messie, tel que c'est écrit dans la Bible, s'est accompli une fois pour toutes. Contrairement à l'ancienne alliance, où ça a été renouvelé. C'est une des différences.
Donc les catholiques, ils travaillent encore avec l'ancienne alliance.
Quelque part, une des raisons pourquoi il y a cette prêtrise avec une office matériellement mise en avant, enfin, il y a un système hiérarchique de prêtrise, alors que la Bible, elle est claire que nous sommes en train d'accomplir un service sacerdotal. Jésus étant le souverain sacrificateur, nous sommes sacrificateurs avec Dieu dans le sens que nous intercédons en faveur des uns et des autres, avec Jésus qui intercède comme étant le sacrificateur souverain et vivant et permanent. Troisième, tout souverain sacrificateur doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Là aussi, c'est un contraste. Parce qu'il est sujet à des faiblesses humaines. Et il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi sans partage. Hébreux 5, 2. Donc, il peut montrer un peu d'indulgence pour ceux qui sont ignorants, ceux qui sont égarés, mais il reconnaît aussi que la faiblesse est aussi sans partage. Donc, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Ce sont des hommes sujets à la faiblesse. Or, Christ, à la différence, il est sans péché, il a été élevé à la perfection, et Pierre dira ailleurs, dans la bouche duquel il n'y a point eu de fraude, et Jésus lui-même dit, qui pourra m'accuser d'un péché? Aucun. Donc Christ a été élevé à la perfection. Il est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et bien plus élevé que les cieux, puisqu'il était éternellement fils, avec le Père éternel. Donc, Jésus-Christ est parfait. Et la raison pourquoi le salut qu'il accomplit est parfait.
Voilà.
Il a souffert la mort pour tous d'une manière parfaite afin que nous obtenions le pardon des péchés, la rémission de nos péchés. Et pour finir, je pense que j'ai remis, je ne sais pas pourquoi j'ai remis la même chose, sacrifice renouvelé chaque année. Ce que je voulais insister dans la deuxième différence, c'est que chaque année il y a un renouvellement, alors que dans la nouvelle, c'est une fois pour toutes. Et dans la première alliance, là j'ai mis sacrifice renouvelé chaque année, dans le sens que c'est temporel. Chaque année ça se reproduit, mais d'une manière temporelle. Et c'est ça que je voulais mettre en avant dans la quatrième différence, dans ce tableau, qui, en contraste, lui, il demeure éternellement. Il est sans fin. Il possède un sacerdoce qui n'est plus transmissible. Donc une fois qu'il a établi ce sacerdoce qu'il ne peut pas transmettre parce que c'est lui-même qui l'a accompli d'une manière éternelle, sans borne du temps, et il est le Fils qui est parfait pour l'éternité. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc l'ancienne alliance reste temporelle dans l'année, et plusieurs fois même dans l'année, et chaque fois le souverain sacrificateur, une seule fois il peut entrer dans le lieu très saint. Lui, par son seul sacrifice pour l'éternité, accomplissant un salut éternel, qui revient à notre question du salut, que l'on a comme don de Dieu d'une manière éternelle, eh bien ce salut éternel est accompli une fois pour toutes par son sacrifice, et que ce voile a été déchiré quand son corps a été déchiré, pour que le voile du temple qui se déchire nous donne l'accès au lieu très saint, de manière éternelle. Voilà, j'en pense qu'on est dans le temps, une heure. Et si on a des questions, on pourra prendre plus tard. Et on va rapidement prier, puis clore. C'est bien, on est à 58 minutes. Merci de votre attention. Seigneur, nous te remercions pour ce moment d'étude et ce partage, ces questions aussi entre nos sœurs Madeleine et Marie-Madeleine et moi-même. Et que tu puisses bénir cette étude à tous ceux qui entreprendront dans la lettre aux Hébreux, et que tu nous révèles davantage le Fils de Dieu, le souverain sacrificateur qui a accompli un salut si parfait, si grand et éternel. Nous te bénissons parce que nous savons que nous sommes sauvés et c'est un don qui vient de toi, et nous nous en réjouissons de ce plan de salut que tu as accompli parfaitement. C'est au nom de Jésus, nous te louons, nous te adorons par l'Esprit, pour ta seule gloire, Père. Amen.
Amen.